Bonjour à vous. Je n'ai pas eu l'occasion de voir tout le monde ce matin. Peut-être qu'on pourra se checker après le culte, si vous le voulez bien. Oui, j'aime toujours passer... Vous savez, moi je dis que la fin du culte, c'est la troisième mi-temps. Et il y a la louange, il y a la prédication, mais il y a la fin du culte. Et c'est presque mon moment préféré du culte. Je vous propose de méditer un texte ce matin, Jérémie chapitre 27. Alors c'est un texte, vous savez, en l'absence d'indication, moi je choisis le texte du jour, comme je disais au frère Aldo tout à l'heure. Je parcours la lecture de la Bible en 6 ans et je prends la lecture du jour. Et il se trouve que c'est Jérémie chapitre 27. Et donc c'est ce que nous allons méditer ce matin. Et pas mal de ce que des choses que je vais dire ont été dites ce matin dans la méditation du pasteur Aldo. Donc il y aura un peu de redite, mais je pense pas que ça fasse du mal de réentendre, en tout cas ceux qui étaient là ce matin. Et pour ceux qui n'étaient pas là, ben vous allez entendre, tout simplement. Ce chapitre 27 de Jérémie n'est pas le passage le plus facile des écrits du prophète. Et vous le constaterez à bien des égards. Et je vous propose la lecture. Alors moi, je fais exprès de lire dans la version de la Bible du Semeur. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez la version Louis II. Ai-je raison ou pas? Oui. Et tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi. Je lis. Au commencement du règne de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, l'Éternel adressa le message suivant à Jérémie. Reviens en arrière, s'il te plaît, au premier verset. Et j'attire votre attention sur le nom Sédécias. Qu'est-ce que vous avez, vous? Joachim, je continue ma lecture. Voici ce que m'a ordonné l'Éternel. Fais-toi des lanières et des barres de bois et mets-les sur ta nuque comme un joug. Puis envoie un message au roi d'Édom, au roi de Moab, au roi des Édomites, des Ammonites, pardon, au roi de Tyr et au roi de Sidon par l'intermédiaire des ambassadeurs venus rendre visite à Sédécias, roi de Juda à Jérusalem. Charge-les de dire à leur souverain, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, le Dieu d'Israël. Voici ce que vous direz à votre souverain. C'est moi qui ai fait la terre ainsi que les hommes et les bêtes qui s'y trouvent, avec ma grande force et la puissance que j'ai déployée. Aussi, je la confie à qui il me semble juste. À présent, je livre tous ces pays à Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui ai même assujetti les animaux sauvages pour qu'ils servent ses desseins. Toutes ces nations lui seront assujetties, ainsi qu'à son fils et à son petit-fils après lui, jusqu'à ce que vienne l'heure pour son pays à lui aussi. Alors son pays sera asservi à de puissantes nations et à de grands rois. Si une nation ou un royaume ne se soumet pas à Nabuchodonosor, roi de Babylone, et ne veut pas se plier à son joug, je sévirai contre cette nation-là par l'épée, la famine, la peste, l'Éternel le déclare, jusqu'à ce que je l'ai fait entièrement disparaître par sa main. Vous donc, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos oracles, vos augures et vos magiciens qui affirment que vous ne serez pas assujettis au roi de Babylone. Leurs prophéties sont des mensonges qui vous feront bannir de votre pays. Je vous en chasserai et vous périrez. Mais la nation qui acceptera le joug du roi de Babylone et se soumettra à lui, je la laisserai tranquille dans son pays pour le cultiver, pour y demeurer. L'Éternel le déclare. Puis j'ai déclaré les mêmes choses à Sédécias, roi de Juda, en lui disant, acceptez le joug du roi de Babylone et soumettez-vous à lui et à son peuple, et vous aurez la vie sauve. Pourquoi devriez-vous mourir, toi et ton peuple, par l'épée, la famine et la peste, comme l'Éternel en menace la nation qui ne se soumettra pas au roi de Babylone? N'écoutez donc pas les prophètes qui vous disent, vous ne serez pas assujettis au roi de Babylone, car leurs prophéties sont des mensonges. Je ne les ai pas envoyés, l'Éternel le déclare, et ce sont des mensonges qu'ils prophétisent en mon nom. Je vous dispenserai ou je vous disperserai et vous périrez, vous et ces prophètes qui vous adressent les oracles. Ensuite, j'ai parlé aux prêtres et à tout ce peuple pour leur dire, voici ce que déclare l'Éternel. N'écoutez pas vos prophètes qui vous prophétisent en disant, voici que les ustensiles du temple de l'Éternel vont bientôt être rapportés de Babylone, car leurs prophéties sont des mensonges. Ne les écoutez pas. Soumettez-vous au roi de Babylone et vous assurez la vie sauve. Pourquoi cette ville devrait-elle être réduite en morceaux de ruines? Si ce sont des vrais prophètes et s'ils ont effectivement reçu une parole de l'Éternel, eh bien, qu'ils intercèdent auprès du Seigneur des armées célestes pour que les objets précieux qui restent dans le temple de l'Éternel, dans le palais du roi de Juda et dans Jérusalem, ne prennent pas aussi le chemin de Babylone. Car voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes au sujet des colonnes et de la cuve de bronze et de ses socles et de tous les autres objets précieux qui trouvent encore dans cette ville. Ces objets que Nabuchodonosor, roi de Babylone, n'a pas emportés quand il a déporté de Jérusalem à Babylone Yekonia, fils de Jéhoiakim, roi de Juda, et tous les grands de Juda et de Jérusalem. Oui, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, au sujet de ces objets précieux restés dans le temple, dans le palais du roi de Juda et à Jérusalem, ils seront emportés à Babylone et y resteront jusqu'au jour où je m'occuperai d'eux pour les rapporter et replacer en ce lieu. L'Éternel le déclare. Jusque-là, notre lecture. Amen. Est-ce que tu peux revenir au verset 1, s'il te plaît? Alors, j'ai oublié de demander conseil à votre pasteur tout à l'heure au sujet de ce que je vais dire. Mais j'ai posé la question à mon épouse en préparant cette prédication et je lui ai dit, est-ce que tu aimerais savoir pourquoi, dans ma version à moi, il est fait mention de Sédécias au verset 1, alors que dans la version de Louis II, il est fait mention de Jéhoiakim. Elle a dit bien sûr que oui. Alors je me suis dit, bon, peut-être que vous aussi vous aimeriez savoir pourquoi est-ce que il y a cette différence. Et donc, notre passage, dès le verset 1, présente une petite difficulté que je me propose d'apporter un éclairage là-dessus. Et donc, dans votre version, vous avez au verset 1, au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. Si vous avez la version second 21, c'est à peu près pareil, avec la mention de Joachim, fils de Josias. La NBS, qui est pas très loin, avec une orthographe différente. Au commencement du règne de Joachim, donc c'est pareil, hein, fils de Josias, roi de Juda. Et la version de la Bible du Semeur, au commencement du règne de Sédécias. Alors que penser de cela? Et pourquoi je fais la remarque? Parce qu'il y a des petits malins à qui ça suffirait pour dire que les Écritures ne sont pas fiables. Et ça pose problème à nos chrétiens, puisque on ne sait pas après où se mettre. Il faut se rappeler que ce que nous avons en notre possession, la Bible, nos Bibles, ce sont des copies de copies de copies de copies. Et puis on peut remonter très loin, comme ça, jusqu'à à celui qui a écrit ces paroles. En l'occurrence, ici, c'est Baruch, à qui Jérémie a mandaté pour écrire ce texte. Hein. Et certainement qu'au départ, il y avait quelque chose d'écrit. Et nos chercheurs essaient de se rapprocher au plus proche du texte d'origine. Et vous savez, en copiant et en recopiant et en recopiant, et c'est fait par des hommes, bien sûr, parfois il peut se glisser des coquilles, malheureusement. Est-ce à dire que la parole de Dieu fait défaut? Loin de là, loin de là. Puisqu'à l'origine, les choses étaient dites. D'autant plus que dans le reste du passage du chapitre 27, il est bien question de Sédécias. On est d'accord. J'ai lu à plusieurs fois, à maintes reprises, au verset 3, si tu veux bien. On voit bien qu'il est fait mention de Sédécias en bas. Au verset 12, il est bien question de Sédécias aussi. Verset 20, le contexte nous dit qu'il s'agit bien de Sédécias. Le fait est que ma version, les gens qui ont écrit la version de la Bible du Semeur, ils font la correction automatiquement. Et donc, on a dans ma version, au commencement du règne de Sédécias. J'attire votre attention aussi sur le chapitre précédent. Si tu peux aller au chapitre 26, le premier verset. Il est dit, au commencement du règne de Yehoyakim, dans la version du Semeur. Mais remets la version Louis II, s'il te plaît. Au commencement du règne de Joachim. Exactement les mêmes mots dans la même ordre que le chapitre 27. On est d'accord? Le pasteur Aldo a dû vous dire, dans une étude ou dans une prédication, que le texte que nous avons aujourd'hui n'était ni séparé en chapitres, ni versets, ni ponctuation, ni majuscules. C'était un texte en bloc. Et vous savez, en recopiant ce genre de choses, et nous avons de belles écritures en cunéiforme, et voilà, à l'origine, il n'était pas ainsi. Et lorsque le copiste, alors c'est une explication, lorsque le copiste recopiait, il pourrait se trouver que son regard, son œil se trompe de ligne. Et il a pu, au lieu de recopier le premier verset du chapitre 27, recopier encore une deuxième fois le premier verset du chapitre 26. C'est plausible ou pas? C'est une théorie qui a été avancée. D'où ce que nous avons au verset au chapitre 27, verset 21. D'autres théories ont été apportées, mais je trouve que bon, ça ne vaut pas le coup de le partager ici. Mais voilà, lorsque vous avez ce genre de choses, ne soyez pas affolés, ne soyez pas mal à l'aise, il y a une explication derrière. En tout cas, originellement, parlons, la parole de Dieu, elle est fiable, elle est sûre et elle est certaine. Alors j'espère que je ne vous ai pas perdu jusque-là, vous êtes encore avec moi. Alors je le disais, un texte qui peut étonner à plusieurs égards, déjà par ce que je viens de mentionner. Après avoir situé la période pendant laquelle les événements se déroulent, Jérémie nous fait le récit d'un message que Dieu lui adresse, un message pour le moins étrange. En fait, c'est un mime. Dieu lui demande de mimer quelque chose qui frappe tous ceux qui le voient. Il s'agit de se fabriquer un joug avec des lanières et des morceaux de bois, et Dieu lui demande de porter ça sur sa nuque. Et je vous garantis que si vous voyez une telle chose dans les rues d'Argenteuil, vous vous poserez des questions. Certainement que vous direz, il lui manque une case là-haut. En tout cas, moi, je le dirai. Parce que ce n'est pas commun, des choses comme ça. Pourtant, à l'époque de Jérémie, souvent le Seigneur demandait au prophète de mimer des choses. On le voit avec le prophète Ézéchiel aussi, où Dieu lui demandait de se faire à manger sur un feu allumé sous des excréments d'humains, étrange, ou encore de se coucher toute une année sur un côté, ensuite de l'autre côté, qui ferait ça? Mais Dieu lui demande de le faire, et tout ça pour donner une information à son peuple. Fais-toi des lanières et des barres de bois pour constituer un joug et mets-les sur ta nuque, nous dit le verset 2. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quel message le prophète veut-il faire passer? Et pourquoi un tel message? Alors, ce qu'on sait du joug, hein, alors, est-ce qu'il y a des Antillais parmi nous? Des Martiniquais? Oui, des Guadeloupéens? Vos familles ont des bœufs? Vous avez dû sûrement voir des bœufs tirer des charrettes. En tout cas, moi, j'ai vu ça, tout petit. Et vous savez, pour tirer des charrettes, pour tirer des charges, on se fabrique un attelage et on lui met à la paire de bœufs un joug. C'est ça, un joug. Ça permet d'utiliser la force de l'animal pour faire les travaux que nous, on ne peut pas faire avec la force que nous avons. Dieu demande à Jérémie de se faire un joug. Mais ici, le texte nous fait comprendre que le joug symbolise la servitude, symbolise l'oppression, symbolise la domination. Le verset 6 confirme que le joug symbolisait la domination de la nation de Babylone. Jérémie, là, est en train de dire au peuple que vous serez sous le joug du roi de Babylone. Il le dit à Juda, il le dit en amont à ces nations qui sont venues rendre visite au roi de Juda. Il s'agissait des ambassadeurs d'Édom, de Moab, d'Amon, de Tyr, de Sidon. Et tous allaient être sous la domination du roi de Babylone. Pourquoi? Pourquoi une telle sentence? Pourquoi un tel châtiment? Vous savez, Sédécias allait être ce dernier roi de Juda. Il est qualifié de mauvais roi parce que selon les Écritures, et on peut le trouver en 2 Rois chapitre 24, verset 19, il faisait ce qui déplaît au Seigneur. Et beaucoup de rois comme ça, de Juda, il y a eu quelques bons rois, Juda, mais surtout les rois d'Israël au nord faisaient ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Ces rois-là plongeaient le peuple dans l'idolâtrie, dans la perversion. Ils allaient même à sacrifier leurs enfants à des idoles, emmenant ainsi la désolation dans le pays. Et le Seigneur, par le moyen de ses prophètes, leur a annoncé de longue date, vous allez payer, vous allez payer. Ils n'ont pas voulu croire, mais le jour vient où ils allaient payer. Constamment, constamment, le Seigneur revenait et disait, détournez-vous du mal que vous faites, sinon vous allez payer. En conséquence, Dieu annonce par l'intermédiaire du prophète et Jérémie 70 ans d'exil. 70 ans d'exil, parce qu'ils n'ont pas obéi. Le pire dans tout cela, c'est que l'exil avait déjà commencé. En tout cas, au moment où Jérémie fait cette annonce à la nation de Juda, l'exil avait déjà commencé. À cette même période, Daniel était déjà en exil. Le prophète Ézéchiel était déjà en exil. Et pas mal des grands de Juda étaient déjà en exil. Il restait un petit noyau à Jérusalem, des pauvres gens. Et le Seigneur leur dit, vous aussi, vous allez y passer. Vous allez être sous le joug du roi de Babylone. Jérémie leur dit, c'est même Nabuchodonosor installé. Et vous savez, c'est Nabuchodonosor qui a installé Sédécias sur le trône. Pourtant, le peuple était et encore et toujours dans le déni. Le peuple décide de ne pas tenir compte des avertissements du prophète et décide de monter une coalition avec un certain nombre de nations pour se rebeller contre cette domination du roi de Babylone. Ils décident de se révolter, de ne plus payer de taxes. Vous savez, chaque fois qu'un peuple était sous domination d'un autre, il devait payer un tribut, un lourd tribut. Il devait payer des taxes. Et Sédécias décide, avec cette coalition, nous ne paierons pas de taxes. Nous ne nous soumettrons plus à ce roi oppresseur. Pourtant, c'est bien cela que le Seigneur fait passer comme message par son prophète. Vous devez vous mettre sous le joug du roi de Babylone. Sinon, vous allez le payer cher. Certainement que la réunion, comme je l'ai dit, le rassemblement de ces nations à Juda se tenait lieu pour organiser un peu la révolte contre le roi de Babylone. Et Dieu adresse ce mime ou ce message sous forme de mime à son peuple par l'intermédiaire de son prophète. Dieu leur envoyait un message sous la forme de mime auquel ils pouvaient s'identifier parce que c'était une nation agricole qui utilisait des bœufs, des ânes, des chevaux pour faire leurs travaux dans les champs. Ils allaient pouvoir s'identifier et tout de suite, en voyant cela, ils ont compris. Ils ont compris, mais ils ont refusé de se soumettre. Si bien que ils ont décidé de monter une coalition pour attaquer le roi de Babylone. Ici, Dieu leur disait que vous alliez être esclaves, sous domination. Alors que d'habitude, c'est la nation de Juda qui, et on le voit sur le règne du roi David, remportait des victoires et David a pu conquérir l'ensemble du territoire de Juda et d'Israël. Il a pu assujettir des peuples, ces mêmes peuples qui leur servaient de porteurs d'eau, nous dit la parole de Dieu. La situation se renverse, tout simplement parce que la population de Juda s'est retournée contre Dieu. Ils ont refusé d'obéir. Cependant, le message de Jérémie disait que c'est toute cette coalition, toute cette nation de Sidoniens, de Tyriens, des Édomites, des Ammonites, des Judéens, qui allaient être sous domination des Babyloniens, de gré ou de force. Et il ajoutait, il voudrait mieux que ce soit de gré. Vous savez, parfois, le Seigneur nous fait passer par des chemins qui nous semblent inconcevables. Inconcevable. Comment ça peut être de la volonté de Dieu que son peuple élu, choisi, soit sous la domination d'un tel tyran qu'est Nabuchodonosor? Et ce qui est frappant dans notre texte, et on le voit au verset 6, hein, non seulement on apprend que Nabuchodonosor, roi de Babylone, est celui qui sera le bras armé de Dieu pour exécuter son jugement, on y apprend également que ce même Nabuchodonosor est considéré comme le serviteur de Dieu. Et moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit vraiment, serviteur de Dieu, Nabuchodonosor, je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire le livre de Daniel et de voir les frasques de cet homme. Et en lisant ce texte, j'ai dit au Seigneur, sérieux, ton serviteur, lui, Nabucodonosor. Impossible. Et c'est ce que disaient les faux prophètes. Impossible. Il ne peut pas en être ainsi. Nous le savons bien, Nabucodonosor n'est pas ce qu'on pourrait appeler un modèle de vertu. Au contraire, c'est un idolâtre. Il a même fait ériger, et on le voit fin du chapitre 2 de Daniel, il confesse que le Dieu de Daniel, c'est le Dieu des dieux. Début du chapitre 3, on nous dit qu'il construit une statuette, un énorme machin, quoi. Une statue, et il ordonne que tous ceux, au son de la trompette, de la harpe et tous les instruments disponibles, quand vous entendrez ça, vous vous prosternerez devant ma statue. Un homme idolâtre, un homme prêt à tous les frasques pour soumettre des nations sous son joug. Et les faux prophètes arrivent derrière en disant non, c'est pas possible. Bien sûr que le peuple est sous domination babylonienne, mais ça ne va pas durer 2 ans maxi, et puis on retournera dans notre pays. Nabucodonosor, il est qualifié de serviteur de Dieu. Et pas que dans notre texte, Jérémie 25, 9, serviteur de Dieu. Dans notre texte, serviteur de Dieu. Dans le chapitre 43, verset 10, il est encore serviteur de Dieu. Alors en quoi serait-il le serviteur de Dieu? Qu'est-ce qui fait d'un homme le serviteur de Dieu? Qu'est-ce qui fait de Nabucodonosor serviteur de Dieu? Et la réponse que je peux nous offrir ce matin, c'est de dire que la qualité de Nabucodonosor en tant que serviteur de Dieu trouve sa justification en ce qu'il accomplit la volonté de Dieu. Non pas qu'il en soit conscient lui-même. Et pour caresser les choses dans le sens du poil, nous on utiliserait plutôt l'expression instrument de Dieu, parce que ça nous fait tellement plaisir, ça nous écorche l'oreille d'entendre qu'un tel homme puisse être serviteur de Dieu. Mais c'est bien ce qu'il est dit à 3 reprises dans Jérémie. Sans même qu'il le sache, il accomplit le jugement que Dieu a annoncé sur son peuple. Nabucodonosor, son serviteur, mais il faut entendre que Dieu souligne par là que tout ce qui arrive, tout ce qui se produit est sous son... Enfin, il est au contrôle, plutôt, de tout ce qui arrive. C'est moi, et il se présente en tant que tel lorsqu'il passe son message aux gens de Juda. Il dit, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. C'est moi qui commande. C'est moi qui ai fait la terre ainsi que les hommes et les bêtes qui s'y trouvent avec ma grande force et la puissance que j'ai déployée. C'est moi le souverain. Je décide qui me sert. Je décide qui est à mon service. Et je décide que Nabucodonosor est mon serviteur parce qu'il accomplit mon jugement sur Juda et sur toutes les autres nations. Il a semblé juste à Dieu d'imposer au peuple d'Israël et tous les autres aux alentours la domination de ce roi. Ce qui est marrant du point de vue où je suis, c'est qu'il dit que c'est pour leur bien. C'est pour leur bien. Il faut que vous alliez sous la domination de Nabucodonosor pour votre bien. C'est la meilleure chose à faire dans l'état actuel des choses. Et je pense que cela doit nous interpeller. Cela doit nous interpeller sur notre condition d'humains sur terre, dans ce monde, sur nos comportements, et le pasteur le disait tout à l'heure, vis-à-vis des autorités, de nos dirigeants, comment est-ce que nous les voyons? Et si Dieu venait et nous disait que M. Poutine, c'est mon serviteur, vous seriez d'accord avec ça? Avec toutes les atrocités qu'on lui attribue, avec tous les dommages, les ravages qu'il fait en Ukraine avec son armée, est-ce que M. Poutine est serviteur de Dieu? Si Dieu le dit, qui sommes-nous pour penser autrement? Est-ce que ce qui se passe au Yémen, en Corée du Nord, dans de nombreux pays d'Afrique, est-ce que tout ça est sous le contrôle de Dieu? C'est ce que dit la parole de Dieu. Pas une feuille sur un arbre ne tombe sans qu'il soit au courant. Il connaît le nombre de nos cheveux sur notre tête. Il sait ce que nous vivons. Il sait la souffrance que nous endurons ici. Il est au contrôle. Et ça, le croyant, le chrétien doit l'intégrer dans sa marche de tous les jours. Le Seigneur est au contrôle de tout cela. C'est lui qui suscite les dirigeants. C'est lui qui suscite les autorités. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui rétablit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est ce que dit Daniel chapitre 2, verset 21. Le Seigneur est au contrôle. Voilà ce que disait l'apôtre Pierre dans sa première épître au chapitre 2, verset 13 et suivant. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. Soit au roi comme au souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs, certes, pour approuver les gens de bien aussi. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde. Aimez les frères. Craignez Dieu. Mais honorez le roi. Honorez le président. Même si, comme le pasteur l'a souligné, il demande aux jeunes d'aller en pharmacie acheter des préservatifs. Et on sait bien ce qu'ils vont faire avec. Honorer M. Poutine, moi, des fois je dis heureusement que je ne suis pas russe, heureusement que je ne vis pas en Russie, ni en Ukraine, heureusement que je vis en France, mais sommes-nous si à l'abri que ça? Permettez-moi de vous lire aussi le chapitre 13 de l'Épître aux Romains. Notre cher frère Paul qui dit au verset 1 que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et donc, s'ils sont là, c'est que Dieu a voulu qu'ils soient là. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Mon Dieu, mon Dieu. Genre qu'il ne faudrait pas résister à Poutine, quoi. Impensable. On met de côté M. Poutine. Il existe d'innombrables façons d'être insoumis aux autorités. Alors, pas que nos dirigeants, on a nos autorités à l'église, Nous avons nos autorités dans nos foyers. La Bible nous dit que le mari est chef du foyer. Le fait est que nous vivons dans une société où on parle de féminisme et les femmes tendent à louvoyer pour arriver à une position telle qu'ils veulent aussi partager l'autorité. Alors, à certains égards, ça a du bon, parce que ça m'a permis à des gens comme moi d'avoir des congés paternité et de passer du temps avec mes enfants, les voir grandir. Il n'y a pas que du bon, malheureusement. Parce que là où la parole de Dieu dit « Femme, soyez soumise à vos maris », alors malheureusement, je n'ai pas le temps d'élaborer sur ce truc-là, mais je devrais commencer par dire « Mari, aimez vos femmes ». Vous savez, quand j'ai lu ce texte et j'ai compris de quoi il s'agissait, je me suis dit « Seigneur, j'aurais aimé être une femme ». Oui. Parce que dans ce texte, il n'est pas dit au mari « Soumettez vos femmes ». Non. Dans ce texte, il dit aux femmes « Soumettez-vous ». Volontairement, sans contrainte. Soumettez-vous à cette autorité que Dieu a désignée pour conduire le foyer. Ça ne veut pas dire qu'il y a une différence ni d'intelligence, ni de niveau, ni de degré, quoi que ce soit. Dieu a juste voulu instituer un ordre pour la bonne conduite de la famille. Mais le fait est que dans notre société, la chose n'est pas ainsi et par contamination, nos femmes en arrivent à dire « moi, me soumettre à un tel monsieur, jamais, il ne m'aime pas, pourquoi je me soumettrais ?» Et la femme qui dit, le mari qui dit « moi, aimer une telle femme, elle ne m'aime pas, pourquoi je l'aimerais ?» Et donc là, la cellule familiale rentre dans des dysfonctionnements et on voit ce que ça donne dans la société. Chacun campe sur ses positions, mais le Seigneur dit que ça a un prix. Je trouve que le prix à payer est lourd quand même pour notre société. Quand on refuse de faire ce que Dieu nous demande de faire, les conséquences sont lourdes. Les conséquences sont lourdes. Alors, il y a d'innombrables façons d'être insoumis aux autorités. Et donc, il incombe à chacun d'examiner son comportement, sa façon d'agir, sa façon d'être, pour ne pas s'attirer sur lui la condamnation que promet le Seigneur. Un autre élément que nous pouvons souligner dans notre texte, c'est le fait qu'au départ, le territoire d'Israël était vu comme la terre promise, le pays où devait couler le lait et le miel, une terre d'abondance. En tout cas, quand ils étaient en Égypte, c'est ce qu'on leur a dit, c'est ce qui a été promis. Moïse devait libérer ce peuple pour qu'il puisse rentrer à Canaan. En terre promise. Mais voyez-vous, à cause du péché, à cause de l'idolâtrie et des pratiques abominables du peuple, le pays est devenu une terre de désolation. Le roi Sédécias, tout comme les autres rois des autres nations autour de lui, avait deux options. Soit ils acceptaient de se soumettre au roi de Babylone, soit il faisait les coups raides, auquel cas le Seigneur promettait l'extermination par l'épée, par la famine, par la peste. Ne m'en veuillez pas pour ce que je vais dire. Si je vous disais que nous vivons, nous aussi, sous un joug, en tout cas sous le joug de la domination de ce monde-ci, seriez-vous d'accord avec moi? Parce que notre monde peut être vu comme un lieu de contrainte pour le croyant, un lieu de servitude, d'asservissement, où notre seule option est d'accepter d'être sous l'autorité des dirigeants de ce monde. Et ça nous fait mal de savoir que nos gouvernements, nos dirigeants prennent des décisions qui vont à l'encontre de ce que nous croyons, sans qu'on puisse intervenir autrement que par la prière, bien sûr. Mais ça nous fait mal. Ça nous fait mal d'entendre que, bon, il faudra travailler un peu plus longtemps. Un peu plus longtemps. Tout ça pour un peu équilibrer les comptes de l'État. Ça nous fait mal d'entendre que, loin d'interdire ou de promouvoir la chasteté avant le mariage, ben on nous dit, pour éviter les maladies sexuellement transmissibles, pour éviter le sida, ben, il faut aller chercher un préservatif. Qu'on ait 11 ans, 12 ans, 13 ans, l'important, c'est de se protéger. Ça nous fait mal. Et donc, nous sommes bien dans un lieu de contrainte. Sur Terre, nous ne sommes pas en terre promise. Nous ne sommes pas dans un lieu où coule le lait et le miel. Sur Terre, nous souffrons, nous qui sommes croyants. Sur Terre, nous aspirons à autre chose. Dieu avait installé l'homme dans un magnifique jardin, un jardin aussi où coulait le lait et le miel, mais l'homme a décidé de se rebeller et de tracer sa propre route. Quelle en a été la conséquence? Il a été chassé de ce jardin. Et donc nous sommes bien dans un monde où le péché règne, où nous sommes sous contrainte. Et la preuve en est, nous sommes croyants, et nous le disons haut et fort, nous sommes enfants de Dieu, pourtant nous sommes toujours soumis à la loi du péché. Il nous arrive de faire des bêtises, moi le premier. Même si nous sommes tristes après, mais il nous arrive de commettre des péchés, parce que nous sommes toujours soumis à la loi de ce monde. Alors, comme Sédécias et les nations autour de lui, Dieu nous a offert deux options. Soit nous acceptons son joug et il nous laisse tranquille, soit nous le refusons, mais alors, quelles conséquences? Condamné à être détruit. Dieu nous a offert une porte de sortie. Nous pouvons soit l'accepter et vivre sereinement, ou la refuser et vivre dans l'incertitude la plus totale. Et vous interrogerez n'importe quel incroyant au dehors et vous lui direz, si vous mourrez aujourd'hui, que se passera-t-il pour vous? Bien sûr, la plupart diraient, ben, je vais pourrir, je vais me dégrader, mon corps retournera à la terre, mais c'est pas ce que la parole de Dieu dit. Bien sûr, chacun est appelé à mourir, mais ensuite vient le jugement, nous dit la parole de Dieu. N'est-ce pas l'état de l'homme sans Dieu? Être dans l'incertitude. Moi, j'ai la confiance et la conviction que si je meurs maintenant, je serai au bras de mon Seigneur. Et ça me réconforte. Bien sûr, ça c'est beau, mais je vous entends dire, mais je ne suis pas sous un joug, moi. Je suis croyant, moi. Je suis enfant de Dieu, moi. Je ne suis sous aucun joug. Et moi, je répondrai, vraiment? Vraiment? Really? L'évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Et là, c'est Jésus qui parle. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon... Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile. Il est facile à porter, et la charge que je vous impose, elle est légère. Devenir chrétien, c'est déposer un joug pour porter un autre. D'accord ou pas? Devenir chrétien, c'est tourner le dos au monde, oui, se débarrasser du joug de ce monde-ci, mais de porter ce joug dont le Seigneur nous dit qu'il est doux et léger. Il n'y a aucun moyen que nous puissions vivre sur cette terre et ne pas porter un joug. C'est faux. Jérémie 29, 7, ou 27, 9, pardon, et 14, nous dit quelque chose qui est important parce que il y aura des gens, des prophètes, des prédicateurs pour nous dire que non, le chrétien n'est pas sous un joug, ou alors qu'il faut s'en libérer de tout joug. Jérémie 27, 9 et 14, n'écoutez pas les prophètes qui vous disent, vous ne serez pas assujettis au roi de Babylone, car leurs prophéties sont mensonges. N'écoutez pas les gens qui vous disent que vous n'êtes pas sous un joug. Il y aura toujours des gens pour contredire la parole de Dieu. Ne les écoutez pas, nous dit le texte. Ne les écoutez pas. Conformons-nous à ce que nous dit la parole de Dieu. Le croyant, bien sûr, il est armé de sa foi et de son espérance. La foi en un Dieu qui tient ses promesses, la foi en un Dieu qui est maître de toutes circonstances, de tout temps, et l'espérance qu'un jour son Fils unique, de la même façon dont il est parti, il nous est dit qu'il reviendra et il prendra tous ceux qui lui appartiennent. Et c'est alors que nous serons délivrés de tout joug. Mais avant d'en arriver là, nous avons par exemple l'exemple de Jésus qui savait de quoi il parlait quand il parlait de joug. Quand il disait « Prenez sur moi, ou sur vous, pardon, mon joug. » Parce que lui aussi, il a porté un joug. Le pasteur, ce matin, disait dans son étude que tout ce qui importait Jésus, c'est de faire la volonté de son Père. Seule motivation, c'est d'être agréable à Dieu. C'est ce que tu as dit. Jésus savait ce que voulait dire porter un joug. Parce que faire la volonté de son Père, c'était un joug. En Philippiens 2, verset 7, il nous est dit que le Christ s'est dépouillé lui-même. Déjà ça en soi. Il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Et prendre la condition du serviteur, mes chers amis, chers frères et sœurs, c'est porter un joug. Parce parce que c'est le moyen que, de salut que Dieu a choisi pour nous délivrer du joug du péché et de la mort. À Gethsémané, Jésus a pu dire, « S'il était possible que tu éloignes de moi cette coupe. » Alors j'enlève le mot « coupe. « S'il était possible que tu éloignes de moi ce joug, ce poids, ce fardeau, cette destinée. » Parce que c'était lourd. Mais ensuite, il se reprend et dit, « Non pas ma volonté, mais la tienne. » Non pas le joug de ce monde, mais ton joug, parce qu'il est doux et parce qu'il est léger. Jésus savait par quel chemin il devait passer. Il savait que faire la volonté de Dieu impliquait la souffrance, la mort. Alors il demandait à son Père de lui ôter ce joug, de lui ôter ce fardeau. Je le disais, vivre dans ce monde, c'est porter un joug, que l'on soit croyant ou pas. La différence, c'est que quand on est croyant, on porte un autre joug, on porte le joug du Seigneur Jésus-Christ. Alors mes amis, frères et sœurs, mon encouragement ce matin pour nous, c'est que nous puissions accepter ce joug avec joie, parce que c'est notre moyen de salut. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autres options. Même si le chemin est compliqué, même si c'est difficile à tenir, que le Seigneur nous aide à accepter ce joug qu'il nous impose, parce qu'il nous l'impose, il le dit. Il nous rappelle que son joug est doux et léger, et que personne ne nous en détourne de ce joug-là, parce qu'il en va de notre salut. Que le Seigneur nous bénisse.
Amen.